Radio Okapi.
En dépit du message du ministre de l'Intérieur rappelant tous les gouverneurs à Kinshasa, les députés du Sud-Kivu font tomber le gouvernement provincial et son dirigeant Théo Ngwabi Djekassi. Ceci s'est déroulé au cours d'une plénière sous tension ce jeudi à Bukavu. Appel sous forme d'encouragement au FRDC et l'UPDF, les deux armées de la RDC et de l'Ouganda, en pleine opération contre les rebelles des ADF en Ituri, où ces tueurs sont accusés d'avoir attaqué mercredi Luna Barrière. Nous vous en parlons dans ce journal. David Maklakankar, coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC, intervient en fin de cette édition comme invité depuis Lubumbashi. Ce sera pour parler du plan de travail 2022 et un aperçu des réalisations de cette année finissante. Restez branchés sur votre fréquence d'information de prédilection pour en savoir davantage. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Sud-Kivu pour commencer. Le gouvernement provincial que dirige Théo Ngwabi Djekassi vient d'être déchu par l'Assemblée provinciale. C'était au cours d'une plénière sous tension tenue ce jeudi 2 décembre à Bukavu. Ainsi, 28 députés sur les 48 qui composent l'Assemblée provinciale ont voté pour la motion de censure contre le gouvernement provincial. Cette plénière s'est tenue malgré le message du ministre de l'Intérieur qui convoque toutes les autorités provinciales à Kinshasa pour consultation. Michel Chirimwami, reportage.
L'entrée à la salle où se tenait la plénière a été interdite par les éléments de la police qui barraient le chemin à tous ceux qui voulaient y accéder depuis 9 heures. Les gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser les attroupements devant l'Assemblée. Les journalistes ont été aussi empêchés d'y entrer. Les députés étaient déjà dedans, mais ce n'est que plus tard que le quorum a été atteint. Les députés rapporteurs de l'Assemblée, sortis de la rencontre après le vote, nous a fait le point. Jacques Kamanda.
Le quorum a été largement atteint parce que nous avions enregistré 33 députés provinciaux présents. Il y a aussi 5 qui ont été empêchés d'accéder à l'Assemblée provinciale. Et à l'issue du vote de cette motion de censure contre le gouvernement, nous avons obtenu 28 voix pour la déchéance du gouvernement provincial. Il y a 5 voix nulles et d'autres se sont retrouvés empêchés d'accéder dans les enceintes de l'Assemblée provinciale. Dès maintenant, le gouvernement provincial est déçu et il est demandé donc au gouverneur de province de présenter la démission dans 48 heures auprès du président de la République.
5 journalistes sont cités parmi les blessés. Un député, le Mouami Kabaré, est parti dans un état pas convenable. Le gouverneur de la province n'a pas été joint pour donner sa réaction. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
À l'Équateur, une nouvelle présidente trône depuis ce mercredi à l'Assemblée provinciale. Il s'agit de la présidente du bureau d'âge Marie-Josée Molebo qui a été élue par acclamation avec un autre vice-président et un autre rapporteur adjoint. Cette élection tenue dans le calme vient mettre fin au conflit qui secouait l'organe délibérant, car le vote controversé de la déchéance du gouverneur de province en juillet dernier avait divisé les députés provinciaux en 2 camps antagonistes. La société civile invite la nouvelle équipe à ne plus prendre en otage le gouverneur afin qu'il travaille librement pour le développement de la province. Plus de précisions avec Paul-Richard Malengela.
La plénière dirigée par la présidente du bureau d'âge n'avait que 3 candidatures pour les 3 postes à pouvoir, dont la présidence, la vice-présidence et le rapporteur adjoint. Puisqu'après le désistement de l'honorable Germain Belelli au poste de vice-président, il ne restait qu'un candidat par poste. Ainsi, les 14 députés présents à la plénière sur le 21 siège que compte l'Assemblée ont, en vertu de l'article 17, alinéa 5 du règlement intérieur, élu par acclamation à ces 3 postes respectivement, Marie-Josée Molebo, Clovis Elongama et Eric Boloko. Ils ont remplacé successivement Claude Bouka, Alexis Koumou et Mongona. Ces derniers ont été déchus, soit invalidés depuis le week-end dernier, au regard des pétitions à leur charge et qui avaient occasionné la mise sur pied du bureau d'âge, a indiqué sa présidente Marie-Josée Molebo. Ce bureau n'avait que 14 jours pour traiter ses pétitions et au cas échéant, organiser ses élections suivant le compromis politique signé le 20 novembre dernier à Kinshasa. Nos tentatives d'avoir la réaction du président déchu Claude Bouka ont été vaines. Toutefois, le président de la société civile Redic Équateur, Guillaume Loleka, a invité le nouveau bureau permanent à ne plus continuer à assiéger le gouverneur de province pour leurs intérêts égoïstes afin que celui-ci s'occupe désormais du développement socio-économique de l'Équateur. Bon, d'accord, pour Chamalengue, la radio Okapi.
Actualité liée à la situation sécuritaire dans la partie est du pays, à Ituri, une nouvelle attaque des rebelles des ADF a été signalé mercredi la nuit au centre de Luna Barrière, à environ 120 km au sud de Bounia, à la limite avec le territoire de Beni au nord Kivu. Des sources locales avancent un bilan des 2 personnes tuées, plus de 10 autres prises en otage par ces malfrats et un véhicule et des maisons incendiées. Des voix s'élèvent pour demander à l'armée ougandaise du PDF, en opération conjointe avec les FRDC dans la région, de mettre fin à ce phénomène des ADF. Martial Kizabiamungu.
Les habitants de Luna Barrière ont été surpris par des coups d'effet tirés par des ADF. Selon des sources locales, ces rebelles ont ciblé la position des FRDC située à la barrière de Luna, agglomération qui héberge beaucoup de gens. La société civile locale déplore les meurtres d'une femme et d'un enfant et plus de 10 autres personnes kidnappées ainsi que des disparus. Un camion a été également incendié. Dieudonné Malangaï, président de la société civile locale.
Lors de l'attaque, l'armée a réussi à libérer aussi 7 personnes qui étaient prises en otage depuis le mois dernier. Pour le moment, la situation est sous contrôle de l'armée.
Des notables acteurs politiques et chefs coutumiers de la région souhaitent qu'une opération militaire mixte FRDC et l'armée ougandaise soit orientée rapidement vers les bastions de FRDC à Ituri pour mettre fin à cette tuerie. Le député national Jackson Aoussé.
La présence de UPDF, c'est notre demande. Nous disons au UPDF, les frappes aériennes, les frappes à distance, c'est une chose, mais le fouillis terrestre. Donc, ils doivent avec nos forces coupler maintenant une démarche dans le sens de fouillis terrestre. Parce qu'ils sont à des badans et ils ont tendance de se rapprocher aux agglomérations.
Pour rappel, c'est la 5e attaque de ces rebelles ADF en espace de mois à Luna, en territoire d'Iromo, avec un bilan de 9 morts. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Arrivé à Beni ce matin pour une visite qu'il qualifie lui-même de compassion, la star de la musique congolaise, Koffi Olomide, a déclaré que ce qui se passe dans cette région ne devrait laisser personne indifférent. Ayons du courage, cette guerre va prendre fin d'ici là, a-t-il lancé aux nombreuses personnes rassemblées au rond-point Nyamwisi où il a fait une brève allocution. Il en a appelé à l'unité pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays. Une élève mineure vient de mourir la nuit de mardi à mercredi après avoir été violée lundi 29 novembre par son enseignant. Les faits se sont passés à Oshwe dans le territoire du même nom. Nous sommes dans la province du Maïndombé. D'après le ministre provincial de l'Intérieur qui confirme la nouvelle, les enquêtes sont lancées pour retrouver l'enseignant en cavale. Dans l'entretemps, certaines maisons ont été incendiées par la famille de la victime et la population en colère. Irène Boma pour plus d'explications.
Âgée de 10 ans seulement, cette fillette, élève de la 5e année primaire à l'épée Ikula 3 à Oshwe dans la province du Maïndombé, a été violée lundi dernier par son enseignant Mitera Katuria, âgé de 39 ans, et est décédée les jours suivants. En représailles, la population d'Oshwe s'est livrée à la justice populaire et au total, 4 maisons, dont celle du présumé auteur et de ses membres de famille, ont été incendiées et plusieurs biens emportés. Une délégation de la police est déployée pour retrouver l'enseignant en cavale, a confirmé le ministre provincial de l'Intérieur du Maïndombé, Crispin Ipondo Banda, qui condamne cet acte ignoble.
Le gouverneur a instruit les bourgmestres comme le fait qui a commis le forfait et ensuite quelques proches de la personne qui était au courant de cette affaire, on les a déjà arrêtés et le gouverneur a donné des instructions et peu de moyens à la police pour pouvoir chasser les fugitifs de manière
Des sources locales indiquent que la victime a été inhumée mercredi dernier et sa famille démunie sollicite l'assistance des autorités ainsi que la poursuite des enquêtes pour rétablir les responsabilités. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, une trentaine d'organisations environnementales suggèrent au président de la RDC d'annuler les projets des contrats avec les firmes pétrolières, en particulier dans le paysage Virunga. Elles se sont ainsi exprimées à travers une lettre ouverte adressée le 25 novembre dernier et dont une copie est parvenue ce jeudi à Radio Okapi. Elles disent réagir au discours de Félix Tshisekedi du 2 novembre à la 26e conférence des partis sur le climat à Glasgow. Bernard Denyangi.
Pour ces organisations, alors que dans son discours à la COP26, le président congolais présentait la RDC comme un pays solution à la crise climatique mondiale, le pays compte mettre sur le marché au courant de ce mois de décembre 19 blocs pétroliers et gaziers. Ce projet, estime ces organisations, menace le paysage Virunga et Salonga en particulier et va à l'encontre de la vision de la transition énergétique. Olivier Ndole de la CDH est leur porte-parole.
Le chef de l'État lui-même a appelé tous les dirigeants du monde de s'unir avec la République démocratique du Congo pour protéger non seulement les forêts, mais aussi les tourbières qui sont des solutions par rapport à la question liée à l'urgence climatique. Et au même moment, les organisations ont signalé au chef de l'État qu'il y a au sein du gouvernement des collaborateurs qui n'ont pas encore compris l'ambition dans laquelle le gouvernement voudrait s'inscrire, notamment quitter le développement des énergies fossiles.
Ces organisations rappellent dans cette correspondance que c'est lors de la 4e édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa de juin dernier à Tunis, que le ministre congolais des hydrocarbures avait annoncé ce projet d'appel d'offres pétroliers et gaziers. Elles estiment que les autorités du pays devraient plutôt promouvoir la conservation et l'économie verte. Goma, Bernard Ngangi, Radio Okapi.
Au Maniema, depuis 2018, cette province a été dotée d'un laboratoire de dépistage de VIH et autres maladies. Cependant, ce laboratoire n'est pas fonctionnel faute des moyens. Le gouvernement provincial a remis hier mercredi 1er décembre, lors de la célébration de la Journée internationale du VIH-SIDA, 6 000 $ américains au chef des divisions de la santé pour rendre opérationnel ce laboratoire. Florence Kizalunga, reportage.
Ce laboratoire n'est pas opérationnel alors que la province compte plus de 12 000 personnes qui sont sous antirétroviraux. Afan Idrissa justifie ses gestes par la nécessité de faciliter l'accès aux services de prévention et des soins pour mettre la population au centre de la riposte.
Nous avons promis, ça fait des années après être doté dans la province, et que ce laboratoire n'est pas fonctionnel par manque de moyens. Mais après cette réunion, j'avais promis officiellement que je dois donner les moyens pour rendre opérationnel ce laboratoire. Maintenant, je viens de concrétiser ce que j'avais promis. Donc, je viens de donner une première tranche de 6 000 $ pour rendre
opérationnel. Ému, les chefs de division ont fait savoir que ce laboratoire va relancer la lutte contre le VIH-SIDA.
Je suis ému et je remercie vivement Son Excellence Monsieur le Gouverneur pour ses gestes en faveur de l'humanité, en faveur de sa communauté, qui va relancer sérieusement la lutte contre le VIH en aidant les nécessiteux, en aidant les malades, avoir un suivi biologique correct. Encore une fois de plus, merci à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur.
Signalons que 3 provinces seulement disposent de ces laboratoires, dont le Haut-Katanga, Kinshasa et Maniema. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Parlant justement du Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi sera prochainement dotée d'un hub de vaccination. La pose de la première pierre de ce bâtiment a eu lieu le mercredi par le gouverneur de la province du Haut-Katanga en présence du représentant résident de l'UNICEF. Une fois terminé, ce dépôt déconcentré permettra la distribution du vaccin dans les autres provinces de l'ancien Katanga et du Kasai et le Maniema. Jean Gandou.
Ce dépôt sera érigé sur une superficie de 1 hectare dans l'enceinte de l'hôpital provincial de référence Johnson Sindwe. Les travaux dureront 18 mois pour un coût total estimé entre 5 et 6 millions de dollars américains. Il aidera donc à renforcer la chaîne de froid du pays, offrira plusieurs avantages comme l'indique Edouard Bekbeder, le représentant résident de l'UNICEF en RDC.
Ça va permettre d'économiser chaque année 2 millions de dollars car aujourd'hui tous les produits du PEV viennent par Kinshasa et après sont amenés dans l'est du pays. Et donc ces dépôts déconcentrés permettent d'amener directement les vaccins à Lubumbashi.
Le ministre provincial de la Santé a salué ce projet, Joseph Sambibulanda.
Il y aura la partie intrinsèque, la partie de chambre froide. Il y aura un centre de formation. Donc toutes les 10 provinces qui dépendront de ce hub viendront en formation ici. Et le PEV aura toute la logistique nécessaire pour que nous puissions administrer des vaccins de bonne qualité à nos enfants et que nous puissions éradiquer les maladies évitables par la vaccination.
Enfin, cette zone logistique va mettre fin au manque répétitif de vaccins dans les provinces concernées. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a confirmé mercredi ses premiers cas de nouveau variant de Covid-19 chez 3 passagers qui avaient voyagé en Afrique du Sud. Son voisin ouest-africain, le Ghana, a également déclaré avoir recensé la présence du variant Omicron. D'autres cas ont été détectés dans de nombreux pays depuis que la souche a été signalée pour la première fois à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en Afrique du Sud la semaine dernière, ce qui a entraîné la fermeture des frontières et des restrictions de voyage. Les transports étaient toujours perturbés jeudi à Dakar et dans plusieurs villes du Sénégal au deuxième jour d'une grève dans ce secteur pour protester notamment contre les tracasseries. Les négociations annoncées pour démarrer jeudi matin n'avaient pas eu lieu faute d'entente entre les transporteurs et les autorités sur la manière de les mener, a déclaré la responsable des 14 syndicats à l'initiative du mouvement.
L'invité.
Fin mardi à Lubumbashi d'un séjour de travail du coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC. David Maklakankar était accompagné de tous les chefs des agences du système des Nations Unies en RDC. Il était question d'élaborer un plan de travail pour l'année 2022. Dans une interview accordée à Radio Okapi, le coordonnateur humanitaire a reconnu que l'année en cours a été plus difficile à cause de la pandémie, ce qui n'a pas permis une grande mobilisation des fonds. David Maklakankar s'entretient avec Jean Gando.
Monsieur le coordonnateur, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut connaître l'objectif de votre visite dans la province du Haut-Katanga?
Je suis venu avec 22 chefs d'agence dans le système des Nations Unies. C'est une activité annuelle pour la planification 2022. Qu'est-ce que nous allons faire dans la RDC en termes de développement? Cet processus de planification, c'est bien important pour assurer une meilleure cohérence d'action pour le développement dans la RDC en ligne avec les priorités identifiées par le gouvernement national. Notre plan cadre pour le développement il s'appelle UNDAF. C'est un document qui on signe entre le Premier ministre et moi en tant que coordinateur résident. Chaque année, ça définit notre travail pour les prochains 12 mois. C'est pour ça qu'on a choisi cette fois de venir à Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC, pour mieux connaître comment les priorités ici dans la province.
Et qu'est-ce qui pourrait être les retombées de cette rencontre pour la ville de Lubumbashi en particulier?
Hier soir, on est invité par son excellence le gouverneur de Haut-Katanga. Pendant ce dîner, on a parlé aussi sur les priorités pour le développement de Haut-Katanga avec son excellence. Malheureusement, cette visite est assez courte parce que, comme toujours, à la fin de l'année, il y a beaucoup de processus budgétaires à compléter. C'est juste pour déplacer un peu de la capitale pour cette séance de travail entre toutes les agences qui sont résidents dans la RDC.
Dans la province du Haut-Katanga, il y a également des nécessités pour qu'il y ait une intervention humanitaire. Est-ce que vous en avez également parlé avec l'autorité?
En effet, on n'a pas beaucoup de programmes humanitaires directs ici dans la Haut-Katanga. La plupart de nos activités humanitaires sont focalisées sur l'est du pays où il y a un conflit actif. Comme Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Nyunzu dans le Tanganyika. Ici, les conditions sont favorables pour un développement accéléré. Et je crois que la plupart de nos programmes ici à Lubumbashi seront pour donner un soutien aux autorités provinciales pour le développement. Alors, on n'a pas beaucoup de programmes humanitaires existants ici en Haut-Katanga.
Et puis, s'il arrivait que vous puissiez intervenir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, ce serait dans quel domaine exactement?
Les programmes humanitaires que nous avons sont liés au développement. Ils sont basés sur la provision des services sociaux en termes d'éducation et services sanitaires. On a bien sûr notre programme et c'est orienté vers les jeunes. Pour nous, les priorités sont que les filles vont toutes à l'école. Ça, c'est bien une priorité pour nous, que les femmes aussi dans la province aient accès aux services médicaux qui fonctionnent. C'est plutôt aide humanitaire lié au développement pour la provision des services de base, éducation, santé. Nous n'avons pas, par exemple, dans cette province, un problème des personnes déplacées. Comme en Ituri, dans l'est du pays, il y a 5,5 millions de personnes déplacées par les conflits. Et ces personnes, nous allons livrer comme une assistance directe à ces personnes. Et ça, c'est vraiment comme aide humanitaire. Ici, c'est plutôt comme le développement. Appuyer les autorités provinciales de livrer comme assistance à la population en termes de services de base, éducation et santé.
Pour terminer, pensez-vous que le budget pourra être revu pour l'année prochaine?
On vit maintenant, honnêtement, dans une situation de crise financière à cause du Covid. On a du mal cette année de mobiliser des ressources pour nos programmes. Une tâche très importante pour moi, c'est de mobiliser des ressources pour le système des Nations Unies. Nous aurons, avec quelques ministres, lancer le plan de développement pour l'année prochaine auprès des bailleurs des fonds pour que nous puissions mobiliser plus de ressources pour les programmes ici. Mais honnêtement, cette année a été très difficile pour toutes les agences en termes des finances. Malheureusement, le budget s'est un peu réduit. Notre programme humanitaire dans le pays a une valeur de 1,98 milliard de dollars. Nous sommes financés cette année à 37%. Il y a toujours le mois de décembre. Je crois que nous n'allons pas atteindre plus de 50% des financements pour l'assistance dans le pays. Alors ça, c'est grave. C'est pour ça que nous devons ensemble redoubler nos efforts avec le gouvernement de mobiliser des ressources pour le peuple congolais.
David Makankar, merci.
Merci à vous et merci à Radio Okapi.
Et à vous, auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal.